Bonsoir Will et son équipe, un grand merci pour ces beaux chants de circonstances. Bon matin à vous tous. Je vous invite à prendre vos Bibles alors et trouver encore une fois l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11. Et ce matin, nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. Romains 11. Au verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si trois qui étaient un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc que les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et trois, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur le propre olivier. Et si ce matin, je vous demanderai quel est le péché qui est à la base, qui est la racine de tous les péchés, je suis certain que vous allez me dire que c'est l'orgueil. Oui, bien sûr, c'est l'orgueil. D'ailleurs, c'est le premier péché. C'est par orgueil que Lucifer, cet ange puissant, ce chérubin protecteur, a voulu justement devenir semblable à Dieu et même s'élever au-dessus de Dieu. C'est par orgueil que nos premiers parents, Adam et Ève aussi, ont chuté. Parce qu'ils ont justement cru Satan quand il leur a dit « Vous serez comme Dieu ». Et depuis ce temps-là, c'est le péché qui traque l'humanité entière. Et comme nous allons voir ce matin, ce péché était présent dans l'église à Rome. Et puisque personne n'est à l'abri, il pourrait être aussi présent dans nos églises aujourd'hui. Et même dans notre propre église ici, l'église de Cap-de-Madeleine, et si on veut ramener ça aussi de façon plus intime, plus personnelle, ce péché aussi peut être dans votre propre cœur et aussi dans le mien. Et c'est pourquoi j'ai intitulé notre étude ce matin « Comment utiliser la sévérité et la bonté de Dieu » comme il l'a dit, deux attributs qui semblent être contradictoires pour lutter contre notre orgueil. Et vous savez que c'est une lutte constante. Et dans le texte ce matin, Dieu va nous donner justement des outils pour remporter la victoire. Avant de plonger dans le vif de notre sujet, j'aimerais vous mettre un peu dans le contexte des versets 17 à 24, parce que Paul utilise des termes qui sont familiers aux Juifs, mais nous ne sommes pas Juifs à l'époque, et nous sommes des Québécois, on est en Occident, alors il faut prendre le temps alors de expliquer certains termes pour nous mettre aussi, pour une bonne compréhension du texte. Alors, regardez le verset 16, s'il vous plaît. Et Paul va utiliser, comme je dis, des termes qui sont tout à fait familiers aux Juifs de l'époque, aux païens aussi. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il est en train d'utiliser deux métaphores pour enseigner la même vérité. Tout d'abord, les prémices se réfèrent à ce texte. Pas besoin d'y tourner, mais on l'a dans Nombre 15, 17 à 21. Dieu va dire aux enfants d'Israël, alors vous préleverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte dans les temps à venir. Alors, il y avait une partie, on faisait un gâteau. Ça, c'est la masse. Puis on enlevait, on prélevait justement une petite partie, une boule si vous voulez, et on donnait ça au Seigneur. C'était consacré au Seigneur pour démontrer que, en réalité, le tout venait de lui, le tout appartenait à lui, et on lui remettait, comme nous avons vu, comme Michel nous a entretenu ce matin, nous remettant à lui ce qu'il nous avait donné. Alors ça, c'est l'idée d'une prémisse. De tout était consacré à Dieu. On faisait aussi la même chose avec la récolte. Quand on récoltait le blé et d'autres céréaliers, on offrait aussi à l'Éternel les prémices de cette récolte. La deuxième métaphore, Paul va dire, il va parler d'un arbre. Et cet arbre, il va aussi développer cette idée un peu plus loin, mais aussi ça nous enseigne la même vérité. Qu'est-ce qu'il dit? Si la racine est sainte, ou a été mise de côté. Ça, c'est le contexte du mot saint dans ce texte ici. Pas sans péché, mais mis à côté, consacré. Alors, Paul dit ici, si la racine est sainte, a été mise de côté, consacrée à Dieu, les branches qui dépendent de la racine pour leur survie, qui sont intégralement liées à la racine, ces branches aussi sont saintes, sont mises de côté, consacrées à Dieu. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Que la racine de la nation juive, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ces hommes ont été consacrés, mis à part pour Dieu. Alors, les branches, la nation d'Israël, des descendants des patriarches, la nation d'Israël a été aussi consacrée à Dieu. Ça c'est justement l'idée du verset 16. Et je vous donne deux textes pour appuyer cela. Deutéronome 7, 6, Dieu lui-même qui va dire ceci. « Car tu es un peuple, quoi, saint, consacré, mis à part pour l'Éternel, ton Dieu. » Et dans Lévitique 22, 32, Dieu va dire aussi, « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie, qui vous met à part et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. » Alors ça, il faut bien comprendre cela avant de regarder le reste du texte. Ça, c'était le but de Dieu pour une génération future du peuple juif. Ou selon Romains 11, 26, on le voit revenir dans ce chapitre ici. Paul va dire, à un moment donné, tout Israël sera sauvé. Ça veut dire la nation entière va être entièrement consacrée à Dieu. Mais en attendant, nous avons Romains chapitre 9, où Dieu choisit parmi ce peuple-là un reste de cette nation consacrée. On a vu cela dans les semaines précédentes. Le texte 9, 27 va dire ceci. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Après, nous avons Romains chapitre 10, où on voit comment la nation a rejeté en général carrément la justice de Dieu. Romains 10, 21 nous dit ceci, au sujet d'Israël, Dieu dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Ça nous amène à Romains chapitre 11, nous sommes en train de l'étudier, où Dieu ne rejette pas Israël, mais Dieu a mis Israël à l'écart. Et nous avons une mise à l'écart qui est partielle. Nous avons vu cela, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Et Romains 11, 5, il en reste selon l'élection de la grâce. Nous avons aussi une mise à l'écart qui est passagère, ce n'est pas permanent. Romains 11, 15 nous dit ceci, « Si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur croix, leur réintégration ?» Alors, il y a un plan de Dieu de réintégrer le peuple juif dans un temps à venir, sinon le passage de la mort à la vie. Nous avons vu la dernière fois que la mise à l'écart a été planifiée, ce n'était pas un hasard. Dieu avait son plan A pour les Juifs. Il y avait aussi des plans A pour nous aussi, les non-Juifs. Et nous avons vu cela, c'était pour amener les païens à l'Évangile. Par le chute, le salut est devenu accessible aux païens, à vous et à moi. Et aussi, par notre salut, Dieu voulait exciter la nation juive à la jalousie. De dire, écoute, voilà les bénédictions qu'ils ont. Mais nous sommes juifs, nous sommes le peuple élu, ça devrait être aussi à nous. Alors, c'était aussi planifié. Mais ce matin, nous sommes en train d'une mise à l'écart qui pourrait être aussi problématique. Pas pour Dieu, mais pour les païens, pour les non-juifs. À l'époque de Paul, dans l'église à Rome, et même aussi dans notre église d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dis que cette mise à l'écart pourrait être problématique? Parce que la façon dont Dieu a traité Israël pourrait devenir une source d'orgueil. Et j'ai mis ici « gare au virus de l'orgueil », une source d'orgueil pour le païen croyant. Surtout dans le contexte de l'église à Rome. Vous avez une église composée en plus grande partie des non-juifs. Vous avez les minorités des juifs parce que c'est eux qui avaient rejeté l'évangile. L'évangile était accessible aux païens et puis c'est eux qui justement accueillaient l'évangile. Et là, vous avez la possibilité pour les non-juifs de commencer à mépriser justement les juifs, de voir comment est-ce qu'eux, ils recevaient la grâce de Dieu, eux, ils recevaient l'évangile et comment est-ce que les Juifs avaient été mis à l'écart et aussi ça pourrait engendrer eux du mépris. Alors nous avons ici, ce que vous voulez, une recette. Nous avons tous les ingrédients ici ce matin dans notre texte. J'appelle ça une recette pour l'orgueil. Et comment est-ce que nous savons que cette problématique était dans l'Église? Mais regardez les exhortations. On les a vues, mais on va les revoir. Paul, il faut qu'il dise aux non-Juifs, verset 18, « Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches, aux dépens des Juifs qui ont été retranchés. Ne te glorifie pas. » En bon Québécois, là, commencez pas à vous péter les bretelles. Au verset 20, « Ne t'abandonne pas l'orgueil. » Il revient à la charge au verset 25, « Ne vous regardiez point comme sages. » Trois fois, il dit cela. C'est parce qu'il y avait une problématique dans l'Église. Et selon les commentateurs, le temps des verbes dans les trois avertissements est un impératif présent, mais combiné avec une participe négative, et c'est une structure grammaticale, je vous donne un petit cours de grammaire ce matin, mais qui voulait dire d'arrêter une action qui est déjà en progrès. Alors Paul est en train de dire, écoute, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, parce que c'était déjà en progrès, puis ça pourrait être vraiment problématique dans l'Église. Alors, ça c'était la recette. Mais quelle est la source? Comment se fait-il que ces non-juifs-là avaient cette problématique à l'égard justement des juifs et la source de tout orgueil, c'est le cœur humain qui n'a pas changé depuis Adam et Ève et qui ne change pas à part la grâce de Dieu, mais nos cœurs, la parole de Dieu nous dit, est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, 3 au verset 12, pas besoin d'y tourner, mais l'auteur, il faut qu'il donne aussi un avertissement aux chrétiens. Il va leur dire ceci, « Prenez donc garde, frère, il parle aux chrétiens, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Alors, la source de l'orgueil, là, c'est notre cœur. Il est méchant, il est tortueux. Mais il y a aussi la semence pour l'orgueil. Qu'est-ce qui aurait pu faire germer dans le cœur d'un païen croyant une telle attitude dans cette assemblée face aux Juifs? Mais si vous regardez au verset 17, vous allez voir justement la semence qui est là, qui a fait germer justement cette problématique. Et Paul, il va revenir à cette métaphore qu'il a utilisée de l'arbre pour illustrer son point. Il va parler d'un olivier. Et je vous donne justement le contexte. Il parle d'un arbre, il parle aussi du greffage. Et ça, c'était une pratique courante à l'époque. On nous dit qu'un olivier peut vivre des centaines d'années. Il arrive un moment dans l'année que l'arbre vieillit, il devient moins productif. Alors, ce qu'on fait, on coupe des branches, puis on va greffer des branches d'un olivier qui est plus jeune pour augmenter la productivité de l'arbre. Et c'est ça ce qu'il est en train d'utiliser comme illustration et comme métaphore. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Quelques-unes des branches ont été retranchées. Une partie d'Israël, rappelez-vous que la racine, c'est les patriarches, les branches de la nation d'Israël. Une partie d'Israël a été retranchée, non pas tous les Israélites, il y a toujours une reste, Dieu a toujours conservé un reste de croyants fidèles, mais une partie. Et les païens pourraient être vraiment contents de cela, de dire, « Hey, vous, les Juifs qui nous avez tellement méprisés pendant tant d'années, nous faire sentir comme si nous étions rien, ah! Voilà maintenant, vous récoltez ce que vous avez semé. Finalement, Dieu ira clouc. Tant pis pour vous autres, on est bien contents. » Ça pourrait être justement une source, une semence dans le cœur. En plus de cela, la deuxième chose qui pourrait les pousser à justement être orgueilleux, c'est que les branches qui ont été retranchées ont été remplacées. Mais remplacées pas par n'importe qui. Remplacées par les païens. Hein? On a pris leur place. Hein? Wow! On est quelqu'un. Et troisièmement, les branches qui ont été greffées, les païens, ne sont pas vues comme des gens de deuxième classe. Pas du tout. Ils ont été, le texte nous dit, ils participent pleinement aux bénédictions promises à Abraham, qui est la racine nourricière de l'olivier. Et ça, c'est le verset 17. Il dit ceci, « Quelques-unes des branches ont été retranchées, et si trois qui étaient oliviers sauvages, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière. » Dieu vous a mis sur cet arbre, et aussi vous êtes en train de participer pleinement. Vous n'êtes pas des citoyens de deuxième classe, là. Vous avez une position privilégiée. Et même la bénédiction qui a été promise à Abraham, vous êtes en train aussi de participer à cela. Hey, ça pourrait être quelque chose de vraiment extraordinaire pour ces non-croyants. Je vous donne deux textes, Éphésiens 2:11-13, et on voit tout de suite ici, Paul, dans notre contexte, va dire ceci, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, vous voyez justement l'hostilité, appelé incirconcis. Ça, c'était un terme de mépris. Quand David allait contre Goliath, là, il a dit, c'est qui cet incirconcis là, pour défier les armées d'Israël? Alors, les Juifs appelaient les païens les incirconcis, puis ils étaient bien contents de les appeler comme ça. Et Paul dit ceci, par ce qu'on appelle circoncis, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'était justement la condition des païens, l'olivier sauvage avant la conversion. Méprisé par les Juifs, séparé de Dieu et de toutes ses promesses. Qu'est-ce que nous avons dans Éphésiens verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés de Dieu. Verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire.
Wow!
Imaginez un païen qui entend ça, qui lit ça. Là. Hein? Hey, c'est bon, c'est beau! On est quelqu'un finalement. Et il pouvait justement avoir cette attitude dans cette église. On est, appartient à la maison de Dieu. On est comme égal aux autres. Tentation de vraiment mépriser le juif, de les voir sous la malédiction de Dieu, retrancher, et de voir maintenant l'Église maintenant, qui est supérieure à la nation juive et qui est la source de toute bénédiction spirituelle. Alors Paul, au verset 18, il faut qu'il corrige la situation. Il va leur dire ceci, « Si tu te glorifies, sache, ce n'est pas toi qui portes la racine. » C'est comme si tu es en train de leur dire, « Écoute, c'est ridicule. Là. Écoute, pensons-y une minute. Là. Okay? Vous avez un arbre, puis ce n'est pas les branches là, qui soutiennent les racines, puis la racine ne dépend pas des branches là, pour son soutien et sa survie. » Ça, c'est l'idée qu'il est en train de dire ici. Alors, ce serait ridicule de penser que l'Église maintenant, par sa vocation, par sa mission, par ce qu'elle accomplit, va être la source maintenant de toutes les bénédictions. Ce n'est pas toi qui portes la racine, va le dire. Il dit, c'est la racine qui te porte. Pensez-y une minute. Il dit, toute bénédiction spirituelle que vous pouvez avoir arrive aux païens et à l'Église. Ça découle de la racine. Et c'est quoi cette racine? Mais c'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham qui est la racine. Je vous donne deux textes pour cela, Genèse 12, 2, 3. Quand Dieu fait alliance avec Abraham, il va leur dire ceci, « Je ferai de toi une grande nation. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Même les païens. Et Galates 3, 6 nous dit ceci, « Comme Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Alors ceux qui croient, vous, moi, les païens dans l'église d'Aram sont bénis, mais avec Abraham le croyant. » Ça, c'est la base. Ce n'est pas toi qui portes la racine. Tes bénédictions découlent de cette alliance que Dieu a faite avec Abraham. Alors prends ta place là, puis dégonfle-toi un peu. Là. Jésus aussi a résumé cette même vérité dans Jean 4, 22. Qu'est-ce qu'il a dit? Le salut vient des Juifs. Deuxièmement, ça pourrait être une source de bénédiction, de glorification, d'orgueil, comme j'ai dit. Mais aussi, les païens pourraient se glorifier en pensant qu'ils étaient non seulement la source, et Paul les corrige cela, mais aussi en pensant qu'ils étaient supérieurs aux Juifs. Si vous gardez le verset 19, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Je suis très important. Dieu a coupé des branches, puis il m'a mis à leur place. Autrement dit, moi, le païen, je suis tellement important aux yeux de Dieu qu'il a même retranché quelques-unes, et de pas n'importe qui, du peuple de l'Alliance, le peuple consacré, le peuple de la promesse, pour me faire de la place. Alors, je dois valoir extrêmement cher. Et Paul, il ne va pas contredire cela, il dit cela est vrai. Paul, il le donne ça. C'est vrai. Mais il va les ramener à un équilibre. Au verset 20, et c'est tellement important de garder l'équilibre. Parce que sinon, on va tomber dans ce qu'on appelle le nombrisme. Vous savez c'est quoi ça, le nombrisme? En anglais, on dit « me, myself, and I ». Il n'y a personne d'autre qui compte. Moi, je suis la plus importante. Je vois tout à travers les lunettes teintées, mettez la couleur que vous voulez, mais la ligne de fond, c'est moi qui est le centre de l'univers et tout tourne autour de moi. Les autres ont été coupés, mais parce que c'est pour me mettre à leur place. Et je veux faire ici tout de suite une application. Parce que le texte, c'est pratique, là. C'est doctrine, mais c'est pratique. Parce que nous avons une telle attitude, c'est dans l'Église. Eux autres ont été coupés, mais moi, on est plus important qu'eux autres. Et nous avons cette idée où est-ce que maintenant ces croyants sont concentrés sur eux-mêmes. Et je vais vous donner juste rapidement deux applications pour cela, parce que nous avons cette tendance aussi dans deux aspects de notre vie aujourd'hui dans l'Église. Premièrement, dans l'adoration, et deuxièmement, dans l'évangélisation. Commençons avec l'adoration. Et c'est vrai que Dieu nous aime. Et Dieu, merci pour cette vérité. On devrait le crier justement en haut des trois, que Dieu nous aime. 1 Jean 4, 8, 10 nous dit ceci: Dieu est amour. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jésus a dit dans Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Galates 2, 20, Paul il va retirer cette même vérité. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, etc., etc. Puis là, il ajoute, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est vrai, on ne peut pas le nier. C'est dans le coulé dans le béton. Mais le sacrifice de Jésus-Christ, il y avait d'autres choses que juste de sauver les pécheurs. Plus important que notre salut, c'est la gloire de Dieu. Dans le texte, dans Jean 17, 1, Jésus devant la croix, il va prier. Il va dire, Père, l'heure est venue. Qu'est-ce qu'il dit après? L'heure est venue pour sauver des pécheurs? Non. Il dit, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Tu vois, Jésus voit la croix. C'est sûr qu'il va faire une œuvre extraordinaire. C'est sûr qu'il va nous sauver. Oui, c'est vrai. Mais à la croix, il voit quelque chose encore plus grand. C'est la gloire de Dieu. Il dit, je m'en vais là. Et je vais te glorifier sur cette croix. Pourquoi c'est si important de souligner cela? Parce que, avant tout, le péché est une insulte, c'est une atteinte à l'honneur et la gloire de Dieu. C'est une rébellion. C'est comme si on dit, Dieu, tu n'es pas digne d'être obéi. Et c'est une rébellion, c'est une insulte à la sainteté de Dieu. Et Jésus, en mourant sur la croix, en parfaite obéissance au Père, va remettre les pendules à l'heure. Il va montrer à tout l'univers, les anges, les démons, l'homme, que Dieu est digne d'être obéi. Et il va soutenir la gloire de Dieu. Alors, dans son être intérieur, oui, il s'en va à la croix, oui, il va sauver des pécheurs, mais il va aussi soutenir et maintenir et magnifier la gloire de son Père en mourant en sacrifice et en s'offrant à Dieu. Et j'aime ce texte. Il y a deux aspects de cela. Rapidement, je vous donne le contexte. Dans les offrandes en Lévitique 1, 2, 3, 4, 5, il y a cinq offrandes. Et le premier, le plus important de tout, l'holocauste, il y a un animal qui est sacrifié. Et là, nous lisons que ça monte vers l'Éternel comme une odeur agréable. Et là, il n'y a pas question de participation du souverain sacrificateur. Il n'y a pas le droit de manger. Il n'y a pas le droit, de prendre une partie de cette offrande. Et le tout est brûlé sur l'autel, le tout. Et ça monte vers l'Éternel comme une offrande agréable à l'Éternel. Il y a des commentateurs qui voient dans cela le sacrifice de Christ. Hébreux 9, 14 nous dit ceci, « Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, premièrement pour le glorifier, se soumettant à sa volonté même jusqu'à la mort, le tout est offert à Dieu. » Quand vous regardez les autres sacrifices, surtout les sacrifices d'expiation où il y a question de péché, on ne parle jamais d'odeur agréable parce que le péché est laid. Et en ce moment-là aussi, on voit que le souverain sacrificateur est capable de participer. Il prend une partie réservée pour lui. Alors, le sacrifice de Christ, il y a les deux aspects. Il y a notre salut, gloire à Seigneur pour cela, mais il y a aussi la gloire de Dieu qui est là et qui glorifie le Seigneur, premièrement, par ce geste qu'il a posé. Quand vous avez aussi le Notre Père, quand le Seigneur va nous enseigner à prier, qu'est-ce qu'il va dire en premier? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, puis ensuite dans nous. Vous voyez? Dans nous. Vous voyez l'équilibre? C'est très important. Sinon, on est tous centrés sur nous-mêmes, puis tout tourne autour de nous. Mais il faut aussi se rappeler que Dieu est concerné. Deuxièmement, et dans, ça c'est l'adoration. Alors, donnons à Dieu aussi la gloire qui lui revient, et que Jésus a glorifié Dieu en son sacrifice. Il a justement enlevé la tâche là, qui était sur le nom de Dieu par la rébellion du péché. Mais dans l'évangélisation aussi, on voit cette même attitude. Et ça, c'est triste. Parce que de nos jours, de plus en plus, on présente l'évangile comme centré sur l'homme, sur ses besoins. Jésus-Christ, là, il est là, puis il peut vous donner la joie, il peut rétablir votre mariage, il peut rétablir vos finances, puis c'est vos besoins, c'est homme, homme, homme. Mais ce n'est pas ça dans la parole de Dieu. Dieu est un Dieu qui est juste. Et Dieu est en colère, Romains 1, 18, contre le péché. Et quand vous présentez l'évangile, la première chose, il faut être sage. Donc vous vous dites, OK, va pas avec un marteau, là. Mais quand même, il faut être sage et il faut toujours confronter le pécheur avec son besoin d'être réconcilié avec un Dieu qui est en colère contre le péché. Dieu est saint. Et les apôtres, en fait, quand Jésus a commencé son ministère, il n'a pas prêché un évangile de joie et de paix. Il a dit, repentez-vous. Commencez là, repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une mauvaise nouvelle avant, parce qu'il y a cette question de séparation avec Dieu. Il y a la mort éternelle qui attend le pécheur, et c'est là, centré sur les besoins de Dieu, pas sur les besoins de l'homme. Oui, certes, Dieu est quelqu'un qui est sauvé, il va récolter toutes les bénédictions. Mais son premier plus grand besoin, c'est d'être réconcilié avec un Dieu qui est en colère, qui est saint contre le péché. L'apôtre Pierre aussi, quand il a prêché sur le jour de la Pentecôte, il a dit aussi, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Paul y a prêché aussi la repentance. Il a dit que Dieu annonce maintenant en tous les lieux à tous les hommes qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par la justice. Quelqu'un pourrait dire, mais si vous présentez l'évangile comme cela, alors vous allez repousser les gens. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, le marketing. Mais laissez-moi vous dire une chose, que la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Vous pouvez diluer l'évangile, vous allez attirer les gens, vous allez remplir les églises, mais avec des gens qui sont à moitié convertis. Prêchez l'évangile. La puissance de l'Évangile est encore puissante aujourd'hui pour sauver les âmes et avoir des vraies conversions. Et ça, c'est la parole de Dieu qu'il faut justement soutenir et continuer à prêcher. Parce que c'est une puissance de Dieu pour briser les liens du péché, pour rendre voyants les aveugles et pour réveiller les morts. Et nous avons le choix, mais que le Seigneur nous donne la grâce, comme je dis, d'être équilibré et de justement présenter l'Évangile, l'adorer, tout d'abord pour sa gloire. Mais revenons à nos moutons. Ça, c'était juste une digression. En étant l'Église ici, à Rome, comment le non-juif maintenant pourrait éviter de tomber dans l'orgueil? Comment faire ce matin, vous et moi, pour éviter de tomber dans l'orgueil? Nous avons vu la recette, mais j'aimerais maintenant parler, dans le temps qui reste, du remède. Le remède pour l'orgueil. Regardez le texte au verset 20b. Elles, les branches, Israël incrédule, ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, le païen, le juif, vous et moi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crois, mais crains. Et ça, c'est une remède que Dieu nous donne. Paul l'a donné aux chrétiens à Rome. Et Dieu nous donne ce matin un remède pour le péché, c'est la sévérité de Dieu pour ne pas tomber dans le péché de l'orgueil. Et ce que Paul est en train de dire dans ce texte ici, il va ramener les païens à terre en leur présentant la vraie raison pour leur place privilégiée. Pas parce qu'ils étaient la source, il a dit non. C'est pas les branches qui portent les racines. Vous n'êtes pas la source. Vous n'êtes pas non plus supérieur aux Juifs. Mais vous êtes là parce que uniquement à cause de la foi. Tu subsistes par la foi. Une foi authentique dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Israël, incrédule, n'avait pas la foi authentique, ils ont été retranchés. Le païen croyant, s'il ne veut pas subir le même sort qu'Israël, s'il veut subsister, et ce mot-là, alors, c'est très intéressant dans l'original. Il y a le mot subsister, il y a le sens de faire tenir en place. De faire qu'une chose, une personne, tu peux avancer, Yannick, garde sa place. La qualité de celui qui n'abandonne pas. Le mot subsister veut dire se tenir debout. Ça veut dire continuer. Tout ce sens-là est dans ce mot subsister. Et Paul est en train de dire ici, si vous voulez justement tenir debout, subsister, garder votre place, il faut avoir une foi authentique. Tu subsistes par la foi. Verset 21 va renforcer cette vérité. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, ça c'était les Israélites, avec tout le privilège. Qu'est-ce que le texte nous dit dans Romains 9? À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les parties? Il y avait tout. Il n'y a pas qu'ils avaient. Et le texte nous dit, Dieu ne les a pas épargnés. Pourquoi? Parce que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dieu va sévir quand il y a question du péché. Je vous donne rapidement des exemples. Quand Lucifer, on a parlé de lui au début, a péché, malgré toute sa beauté extrême, malgré tous ses privilèges, malgré tout ce qu'il y avait, il n'a pas été épargné quand il a péché. Nous avons aussi les textes dans 2 Pierre 2:4, des anges qui ont péché, qui ont suivi Lucifer. Dieu ne les a pas épargnés non plus. Nous avons l'ancien monde, le temps de Noé. Dieu ne les a pas épargnés non plus. Nous avons les villes impies de Sodome et Gomorre. Dieu ne les a pas épargnés. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Fils parfait, Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, quand il a pris notre place et il a porté les péchés, il non plus n'a pas été épargné. Qu'est-ce que cela nous enseigne alors? Dans ce texte, Paul est en train, son argument de Paul dans ce texte ici, il a dit aux Juifs, aux païens, s'il n'a pas épargné les Juifs là, avec tous les privilèges, il ne t'épargnera pas non plus. Si un Juif est tombé dans l'incrédulité, et malgré c'était justement la nation mise à l'écart pour Dieu, Dieu ne les a pas épargnés. Combien moins il va épargner un païen qui va tomber dans l'incrédulité? Et qu'importe, un païen dans l'église à Rome, même aujourd'hui, baptisé, qui rompt le pain, qui a chanté des cantiques, qui a dit des belles prières, si il ne possède pas une foi authentique, une foi qui le fait subsister, qui le fait tenir debout, qui le fait continuer, Paul est en train de dire, tu vas connaître le même sort qu'un juif, incrédule. Et ça, c'est une vérité. Ça prend une foi authentique. Si on ne l'a pas, Dieu n'épargne pas. Et je donne les exemples ici, vous avez, comme j'ai cité, mais aussi les églises. Quand l'apôtre Jean va écrire les lettres aux églises, on a l'église de Pergame, une église qui est mondaine. Jésus a dit, « Repends-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Et bien sûr, nous avons l'exemple classique de l'église de Laodicée, l'église complètement dans l'apostasie, complètement reniée. Le Seigneur même est à l'extérieur de la porte. Il faut qu'il frappe pour rentrer. Et qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de cette église? « Je te vomirai de ma bouche. Dieu prend le péché au sérieux. Il est trois fois saint, et voilà pourquoi il est si sévère à son égard. Alors, l'avertissement, si on revient à ce que Paul est en train de dire au verset 20, aux païens dans l'église de Rome et à nous tous ce matin, c'est de regarder ce que Dieu a fait à Israël. Non pour s'enorgueillir, c'est pas pour dire, hey, vous avez été retranchés, puis moi, on a pris notre place. Mais regardez ce que Dieu a fait à Israël et tremblez dans vos bottines. Craignez, parce que si votre foi n'est pas authentique, tout souci, c'est par la foi. Mais si ta foi n'est pas authentique, malheur à vous au jour du jugement. 2 Corinthiens 13, 5 nous dit ceci, c'est l'exhortation que je vous donne et moi je me donne ici aussi. Examinez votre propre cœur pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Paul est en train de dire à ses chrétiens pour voir si vous êtes dans la foi. Alors ça, c'est la sévérité de Dieu qui devrait nous garder de nous enorgueillir puis de regarder les autres et de se comparer aux autres. Mais il dit, écoute, regardez votre cœur. Si votre foi n'est pas authentique, faites attention, vous êtes dans un pétrin. Mais il y a un deuxième aspect, et je termine avec cela, je vois que le temps file rapidement. Il y a aussi la bonté de Dieu. Et ça, c'est un autre aspect, justement, pour nous garder, justement, dans l'humilité et aussi nous aider à éviter d'être orgueilleux. Et Paul va dire ceci dans le texte au verset « Considère donc, il a dit au verset 22, « La bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. » Il va dire la même chose, mais de façon différente. Il va dire « La sévérité de Dieu, ça devrait te pousser justement à examiner ton propre cœur pour voir si tu as la foi authentique. » Mais là, il revient maintenant à la charge, il parle de la bonté de Dieu, il dit « Oui, Dieu est bon envers toi, mais si tu demeures ferme dans cette bonté, sinon, toi aussi, tu vas être retranché. » J'entends les gens qui croient à la perte du salut, dire « Ah, tu vois, c'est dans le texte, on peut perdre le salut. » Mais ce n'est pas ce que le texte enseigne ici ce matin. Le contexte, c'est l'incrédulité d'Israël, qui n'avait pas la vraie foi authentique. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas persévéré. Le mot subsister, là, ça veut dire persévérer, continuer, tenir debout, garder justement ce qu'ils avaient, leur statut. Ce texte enseigne non pas la perte du salut, mais que le vrai salut se reconnaît par la persévérance. Et j'aime ce que quelqu'un a bien dit, je ne sais pas qui, j'ai mis autant inconnu. Le croyant authentique persévérera toujours dans la foi. Et il persévérera toujours dans la foi parce qu'il est un autre croyant authentique. C'est comme le saucisse high grade. Hein? OK. Fait que, il est authentique, il persévère parce qu'il est authentique. Et ceux qui ne persévèrent pas, on pourrait se poser la question, était-il vraiment sauvé? Et pour répondre à cette question, je vais vous... On va regarder justement notre grand salut, parce que c'est très important ici. Notre position devant Dieu, le fait de subsister, ça c'est très important pour vous et moi ce matin. De subsister, parce qu'il dit, sinon, tu vas être retranché. Alors la question qu'on devrait se poser ce matin, est-ce que je subsiste? Comment est-ce que je fais pour subsister? C'est quoi ça, subsister devant Dieu? Le salut est présenté dans la parole de Dieu de trois façons différentes. Et les trois sont connectés. Dans un premier temps, le salut, notre grand salut, c'est une réponse initiale de foi. Vous avez des beaux textes comme Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ça, c'est Dieu, dans sa bonté, qui nous pousse à la repentance, la bonté de Dieu. On reconnaît notre état pécheur devant Dieu, on s'humilie, confesse nos péchés, Dieu nous pardonne, et nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, sauvés de la pénalité des péchés. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas arrêter là. Le salut aussi est aussi un processus continuel. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes, si nous sommes des vrais croyants, nous sommes en train d'être sauvés. Pas de la pénalité du péché, mais du pouvoir du péché, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Bref, on persévère. Je vous donne juste des textes pour souligner cela. 1 Corinthiens 1:18 dit ceci. La prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Si tu lis ce texte-là, pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu, ça ne dit pas grand-chose. Mais écoute bien, dans le texte, les deux verbes, périr et croire, sont des participes présents. On peut relire le texte, écoutez bien. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont en train de périr. Mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés, c'est différent. Nous sommes en train d'être sauvés. Pourquoi? Parce que le salut est aussi un processus continuel. Sauvés du pouvoir du péché. Pour nous qui sommes en train d'être sauvés jour après jour du pouvoir du péché, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 15, 1, 10, la même chose. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu? Non. Est-ce que c'est tout? Non. Dans lequel vous avez quoi? Persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Et encore une fois, le temps du verbe, par lequel vous êtes en train d'être sauvés. Un participe présent, si vous le retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Votre foi n'était pas authentique. Ce qu'il est en train de dire. Le salut est plus que juste une réponse initiale, c'est un processus aussi, et dans ce processus, vous êtes continuellement sauvé du pouvoir du péché si vous avez la foi authentique. Ça nous amène à poser une question maintenant, parce que je martèle ce point et je termine avec cela. Jésus a illustré cela rapidement dans le parabole du semeur. Quand il parle de la semence qui tombe dans les endroits pierreux, ah, l'évangile, il reçoit avec joie, yeah! Mais qu'est-ce qui arrive après? Persécution, tribulation, chut, l'occasion de chute. Mais il y a ceux qui tombent dans une bonne terre et ça porte du fruit. La question qu'on devrait se poser ce matin, c'est comment savoir si je suis plus qu'un chrétien de nom? Comment savoir si je suis en train d'être sauvé, de persévérer? Je vous cite un texte, Romains 1:16. C'est dans la réponse. Paul dit aux Romains, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Encore une fois ici, le verbe est au temps participe présent. La parole de Dieu, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque est en train de croire. C'est encore dans le présent. La puissance de Dieu est là, mais si vous êtes en train de croire, et ça, c'est justement le croyant authentique, il continue à croire. Et ça permet justement à la puissance de Dieu d'être relâchée dans sa vie, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et justement, lui donner la victoire sur la puissance du péché. Il subsiste, il persévère. Ça, c'est Romains 16. C'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui sont en train de croire. Ça, c'est beau. Il y a un seul problème. C'est nos cœurs qui sont tortueux, qui sont méchants et qui sont capables de s'endurcir et qui sont en train aussi, justement, de repousser la parole de Dieu. Et ça peut devenir comme l'eau sur le dos d'un canard, qu'on utilise souvent cette expression. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour continuer à croire? De persévérer à croire. Parce que si on persévère à croire, on va subsister. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas arrêter de croire et puis de continuer jour après jour de croire? Mais je vous donne la clé, ça c'est la bonté de Dieu. C'est la clé parce que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Et si nous ne sommes pas des chrétiens qui sont en train de se repentir jour après jour et de confesser nos péchés, de s'humilier devant Dieu, d'être brisés et contrés devant Dieu, nos cœurs vont s'endurcir. Et quand nos cœurs s'endurcissent, qu'est-ce qui arrive? La parole de Dieu n'a plus d'effet dans nos vies. Et quand la parole de Dieu n'a plus d'effet dans nos vies, on a les cœurs endurcis. On se pose la question, mais est-ce qu'on avait vraiment saisi et cru? Est-ce que nous sommes des chrétiens authentiques? Alors, un vrai chrétien authentique, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et quand Dieu va donner des avertissements, quand il va envoyer des épreuves, au lieu d'endurcir le cœur, le chrétien authentique va s'humilier sur la main puissante de Dieu et il va laisser la parole de Dieu le travailler. Et ce travail, cette parole-là qui est la puissance de Dieu, il va continuer à persévérer, à croire qu'il va continuer à persévérer, à être sauvé et qu'il va continuer justement à le faire subsister devant Dieu. Je vois que le temps est passé, mais je vous laisse avec cela ce matin. J'avais d'autres choses à vous dire, mais le temps est passé. La bonté de Dieu aussi à l'égard d'Israël, c'est plein. On y reviendra là-dessus. Mais simplement pour vous dire deux choses, la sévérité de Dieu et la bonté de Dieu. Et Dieu est tellement bon. Hein? Il y a un texte qui dit, oh, que Dieu est bon pour Israël. Mais il est bon pour nous aussi. Et malgré nos imperfections, malgré nos têtes si dures, comme on a chanté ce matin, nos cœurs si durs, Dieu, dans sa bonté, il nous donne des avertissements, il nous amène dans les situations pour nous briser, pour nous faire humilier, parce qu'il veut qu'on saisisse justement sa parole, qu'on continue à croire, pas de s'endurcir nos cœurs, mais de laisser cette parole nous pénétrer pour que cette parole-là puisse devenir justement un salut pour ceux qui sont en train de croire, d'être sauvés du pouvoir du péché. Sa bonté. Et finalement, la bonté de Dieu va s'éclater le jour quand Jésus va revenir. Et on va être sauvés, pas seulement de la pénalité du péché et du pouvoir du péché, mais gloire à Dieu de la présence du péché. Hein? Amen. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour tout d'abord ta sainteté. Tu es un Dieu qui est trois fois saint. Et comme cela, tu punis le péché et nous te remercions que Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois. Tu es aussi un Dieu qui est bon et dans ta bonté, tu veux que nous soyons attachés à ta personne. Et tu nous envoies, Seigneur, des avertissements, tu nous envoies des épreuves. Seigneur, que cela ne nous repousse pas, que cela ne serve pas de nous endurcir le cœur, mais qu'on soit plutôt de ceux qui s'humilient, qui se repentent et qui continuent dans ta bonté, qui persévèrent et qui subsiste devant toi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour toute ta bonté. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.